chapitre 12. Myriam crut qu'elle n'arriverait jamais à regagner sa péniche. Elle avait l'impression qu'elle allait s'évanouir là, sur le chemin de halage, alors qu'elle sentait monter en elle une terrible vague de panique. Son champ de vision se rétrécissait, un poids l'écrasait tout entière, son souffle était de plus en plus haché, et son cœur tambourinait dans sa poitrine. Elle dégringola les marches de sa cabine et s'effondra sur le banc. Puis elle colla le menton à son torse, les coudes à ses genoux, et s'efforça de respirer calmement afin de retrouver un pouls normal. Quelle idiote, quelle idiote, quelle idiote ! Jamais elle n'aurait dû aller chez lui. Qui savait ce qui aurait pu se passer ? Et s'il avait appelé la police ? Il aurait pu prétendre qu'elle le harcelait et cela aurait tout fait échouer. Elle avait cédé à un besoin impérieux de voir Meyerson, juste un coup d'œil. Lire les nouvelles ne la satisfaisait plus. 2 jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait recontacté l'inspecteur Barker et pourtant, il n'y avait apparemment rien de nouveau sur le meurtre de Daniel. Elle commençait à se demander si on l'avait vraiment prise au sérieux. Après tout, ça n'aurait pas été la première fois que quelqu'un feignait de s'intéresser à elle, feignait de l'écouter, pour l'écarter ensuite sans ménagement. Peut-être que Meyerson leur avait confié quelque chose à son sujet, pour la décrédibiliser. C'était pour ça qu'elle avait eu besoin de le voir, de voir son visage, d'y lire la peur, l'inquiétude, le chagrin. Et elle savait exactement où regarder. Par la fenêtre de l'étage qui donnait sur le jardin. C'était dans cette pièce qu'il travaillait, devant cette fenêtre que se dressait le solide bureau en acajou auquel Theo Meyerson s'asseyait, penché sur son ordinateur, une cigarette se consumant seule dans le cendrier en verre carré, tandis qu'il élaborait des phrases et créait des images. Tandis que, dans un acte d'une violence insultante, il écrivait l'histoire de Myriam en excluant sa protagoniste. Quand Myriam se représentait Meyerson chez lui, travaillant dans son bureau, prenant un encas dans sa cuisine ou s'arrêtant dans le couloir devant la photo encadrée de sa femme et lui, jeune, souriant et débordant de vitalité, elle n'avait pas besoin de recourir à son imagination. En effet, elle avait déjà visité la superbe maison victorienne de l'écrivain sur Noel Road. Elle avait traversé le hall d'entrée, et emprunter le sombre couloir, peint d'une couleur à la mode qui devait porter un nom évocateur comme cendre, pierre, taupe d'automne ou poisson mort. Elle avait admiré les tableaux au mur, les teintes éclatantes du tapis persan jeté sur le parquet ancien en bois brut, le petit salon orné de bibliothèques grinçant sous le poids d'ouvrages reliés. Elle avait aussi remarqué, avec un pincement de compassion, le cadre argenté posé sur une table dans l'entrée. Avec la photo d'un petit garçon brun, tout sourire. Cela faisait à peine 6 mois que Myriam travaillait au bateau Lyre quand Meyerson était apparu pour la première fois, longeant le chemin de halage avec son chien, un petit terrier qui jappait sans cesse et que l'écrivain avait attaché à une bitte d'amarrage, le temps de parcourir la sélection de la péniche. Meyerson et Nicholas, le patron de Myriam, s'étaient mis à parler bouquins, ceux qui marchaient et ceux qui ne marchaient pas du tout, ceux qui se faisaient étriller par les critiques de la London Review of Books et ceux en lice pour le Booker Prize. Dans l'ombre, derrière un rayonnage, Myriam les épiait discrètement. Comme beaucoup de gens, elle avait lu ses livres. Le premier, publié au milieu des années 1990, avait généré des ventes modestes et de bonnes critiques. Le deuxième avait remporté un succès fulgurant. Après cela, Meyerson avait disparu. Pas simplement de la liste des best-sellers, mais des librairies tout court. Parfois, son nom apparaissait dans l'article d'un quelconque supplément littéraire qui évoquait l'histoire tragique de cet écrivain à succès, anéanti par un drame personnel. Myriam avait toujours trouvé son style un peu surfait, mais elle découvrit qu'elle-même n'était pas insensible à l'aura de la célébrité. Comme on se mettait vite à réévaluer la qualité du travail d'un auteur, quand celui-ci n'était plus un nom abstrait, une photo arrogante sur la jaquette d'un roman, mais une personne en chair et en os, avec un sourire timide et un chien qui sent mauvais. Un mercredi matin au début de l'été, peut-être 6 mois après sa première visite à la péniche librairie, Meyerson se présenta alors que Myriam était seule à gérer la boutique. Il attacha le chien, comme à son habitude, et Myriam lui apporta une gamelle d'eau, ce qui lui valut un chaleureux remerciement. Meyerson voulait savoir s'ils avaient reçu le nouveau Ian Rankin, et après vérification, Myriam découvrit que le roman ne serait publié que la semaine suivante. Elle pouvait lui mettre un exemplaire de côté, s'il le souhaitait. Il accepta, et ils se mirent à converser. Elle lui demanda s'il travaillait sur quelque chose de nouveau, et il répondit que oui, qu'il hésitait d'ailleurs à se lancer dans le policier. « Vraiment ?» s'étonna Myriam. « Je ne pensais pas que ce serait votre tasse de thé. » Meyerson inclina la tête à droite, puis à gauche. « Eh bien, soupira-t-il avec un sourire en coin, vous n'avez pas tort, mais il s'avère que je suis un peu dans l'impasse. » C'était le moins qu'on puisse dire. À cette époque, il n'avait rien publié depuis plus d'une décennie. Je songe donc à m'essayer à un style complètement différent. On verra si j'arrive à débloquer la machine, ajouta-t-il en se tapotant la tempe du bout de l'index. La semaine suivante, quand le nouveau Rankin arriva, Myriam en garda un exemplaire pour l'écrivain. Cependant, Théo ne vint pas le chercher, ni ce jour-là, ni le lendemain, ni le jour suivant. Comme la librairie lui avait déjà fait livrer des livres à son domicile, Myriam avait son adresse. D'ailleurs, elle voyait très bien où il habitait. Ce n'était pas très loin de sa péniche à elle, un gros kilomètre à pied en suivant le canal. Elle décida donc d'aller le lui remettre en main propre. Myriam espérait que son arrivée ne serait pas perçue comme une intrusion. Au contraire, quand Théo ouvrit la porte, il parut sincèrement content de la voir. « C'est tellement gentil à vous, » dit-il en l'invitant à entrer. « Je ne suis pas très en forme en ce moment. » Ça se voyait. Il avait des cernes, le blanc des yeux qui jaunissait autour des pupilles et le visage rougeau. La maison empestait le tabac froid. « Cette période de l'année est un peu compliquée pour moi, » expliqua-t-il d'une voix éraillée. Il se tut et Myriam n'insista pas. Un peu maladroitement, elle lui effleura le bras et il se dégagea avec un sourire gêné. Myriam avait ressenti une telle tendresse envers Théo Meyerson ce jour-là. Ils prirent le thé sur la petite terrasse à l'arrière de la maison et causèrent littérature. L'été s'installait doucement, les journées rallongeaient, la glycine embaumait et on entendait la musique que diffusait une radio au loin. Installée dans son siège, Myriam ferma les yeux et éprouva un profond contentement. Quel privilège d'être là dans ce jardin, un véritable petit bijou au cœur de Londres, à discuter d'une myriade de choses avec un éminent écrivain. Elle vit s'ouvrir devant elle la possibilité d'une vie bien différente, une vie plus riche, au sens culturel du terme, et plus peuplée aussi. Non qu'elle s'imagina quoi que ce soit avec Théo, elle n'était pas bête. Elle avait vu des photos de son épouse et savait qu'elle ne souffrait pas la comparaison. Mais à cet instant, il la traitait comme son égale, comme une amie. Ce soir-là, quand elle le quitta, Théo lui serra chaleureusement la main. « Repassez quand vous voulez, » dit-il avec un sourire. Et comme une idiote, elle le prit au mot. Quand elle revint, la fois suivante, elle avait quelque chose pour lui. Un cadeau qui pourrait les rapprocher, pensa-t-elle. Un livre, son livre à elle, celui qui racontait son histoire, celui sur lequel elle travaillait depuis des années, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage de montrer à quiconque. Jusque-là, elle n'avait rencontré personne qui lui inspire suffisamment confiance pour qu'elle lui dévoile les secrets de son passé. Et désormais, il y avait Meyerson, un véritable écrivain, un homme qui devait lui aussi vivre chaque jour sous le fardeau de la tragédie. Alors c'était lui qu'elle avait choisi. Un choix malheureux. Elle croyait confier son histoire à un homme intègre et bon, et elle venait d'ouvrir son cœur à un charlatan, à un prédateur. Après ce qu'elle avait vécu, on aurait pu la croire en mesure de repérer ces gens-là au premier coup d'œil. Le premier prédateur que Myriam avait rencontré s'appelait Jeremy. Jez, pour les intimes. Un après-midi étouffant de juin, il invita Myriam et son amie Lorraine à monter dans son break Volvo bleu clair. Les deux filles faisaient du stop, c'était courant dans les années 1980, même dans leur banlieue du Hertfordshire. Elles avaient décidé de sécher les deux dernières heures de cours pour aller se promener en ville, fumer des cigarettes et essayer des vêtements qu'elles n'avaient pas les moyens de s'offrir. Quand la voiture s'arrêta à côté d'elles, Lorraine prit place sur le siège passager. Quoi de plus normal ? C'était elle la plus mince et la plus jolie des deux. Même si, à vrai dire, ni l'une ni l'autre ne l'était réellement. C'était pour elle qu'il s'était arrêté. Alors elle s'installa devant et Myriam s'assit à l'arrière, juste derrière elle. Le conducteur leur dit bonjour, se présenta et leur demanda leur prénom. Mais il n'accorda pas le moindre regard à Myriam. Des canettes de bière et une bouteille de whisky vide roulaient par terre, aux pieds de Myriam. Il régnait dans l'habitacle une odeur bizarre, qu'on décelait sous la fumée des cigarettes de Jazz et Lorraine, une odeur âcre, comme du lait caillé. Myriam eut envie de descendre presque à la seconde où elle se trouva à bord de la voiture. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû monter, que c'était une mauvaise idée. Elle ouvrit la bouche, mais la voiture avait déjà redémarré et prenait rapidement de la vitesse. Myriam se demanda ce qui se passerait si elle ouvrait la portière. Est-ce que Jazz ralentirait ? Il penserait surtout qu'elle était folle. Alors elle baissa sa vitre et inspira l'air chaud de l'été. Une chanson passait à la radio, un slow, et Jeremy tendit la main pour changer de station, mais Lorraine lui effleura le bras. « Oh non !» dit-elle. « J'aime bien cette chanson, pas toi ?» Et elle se mit à chanter. « Je ne m'excuserai pas pour ce temps passé avec toi. Ce que je t'ai pris, je ne te le rendrai pas. » Jazz ne les emmena pas en ville, mais chez lui, pour fumer. « C'est bon, on a déjà des cigarettes !» répondit Myriam. Et Lorraine et Jazz éclatèrent de rire. Ce n'est pas de ça qu'on parle, Myriam. Jazz habitait une ferme miteuse, à quelques kilomètres en périphérie de la ville. La bâtisse se dressait au bout d'une longue route sinueuse, dont le bitume se réduisait comme peau de chagrin au fil des mètres. Quand ils arrivèrent devant le portail, ils étaient sur un chemin de terre. Myriam avait tellement mal au ventre qu'elle avait l'impression qu'elle allait se faire dessus. Jazz sortit de la voiture pour ouvrir la grille. « Je crois qu'on devrait s'en aller », souffla Myriam à Lorraine d'une voix tremblante. « Ce type est bizarre, ça ne me plaît pas. »« Arrête de faire ta mauviette », répliqua Lorraine. Jazz revint et avança la voiture dans l'allée pour la garer à côté d'une autre, une vieille Citroën blanche. Quand Myriam la vit, son cœur fit un petit bond. Sa maman avait la même avant. C'était le genre de voiture que conduisaient les mères de famille. Peut-être que la mère de Jazz était là, songea-t-elle. Mais elle s'aperçut que les pneus de la Citroën étaient à plat et que le châssis reposait sur le sol. Elle frissonna en dépit de la chaleur. Jazz descendit le premier de la Volvo, suivi de Lorraine. Myriam hésita. Elle devrait peut-être rester là. Lorraine la regarda, les yeux écarquillés, et articula. Allez, viens. En lui faisant signe de sortir. Myriam s'exécuta et marcha vers la maison, les jambes tremblantes. Lorsqu'elle passa devant l'ombre de la bâtisse, une fois que le soleil eut cessé de l'aveugler, elle découvrit que la ferme n'était pas simplement miteuse, mais complètement à l'abandon. Les fenêtres à l'étage étaient cassées, celles du rez-de-chaussée condamnées. « Tu n'habites pas ici ?» s'écria Myriam d'un ton indigné. Jazz se tourna vers elle et, pour la première fois, il la regarda, impassible. Il ne dit rien et repartit vers la porte d'entrée en attrapant Lorraine par le bras. Cette dernière jeta un regard à Myriam par-dessus son épaule et Myriam vit qu'elle aussi avait peur à présent. Ils entrèrent tous les trois. L'intérieur était immonde, le sol jonché de bouteilles, de sacs plastiques et de paquets de cigarettes. Et il régnait une forte odeur d'excréments et passeux d'un animal. Myriam se couvrit le nez et la bouche. Elle aurait voulu faire demi-tour, s'enfuir, mais quelque chose l'en empêchait. Quelque chose qui la poussait à continuer, à mettre un pied devant l'autre, à suivre Lorraine et Jazz. Ils empruntèrent un couloir, passèrent devant un escalier et pénétrèrent dans ce qui avait dû être un salon autrefois, à en juger par le canapé défoncé qu'on apercevait contre un mur. Myriam se dit que, si elle se comportait de façon tout à fait normale, la situation serait peut-être normale. Elle pouvait la forcer à être normale. Ce n'était pas parce que cela ressemblait à un film d'horreur que ça allait être comme un film d'horreur. Au contraire d'ailleurs, dans les films d'horreur, les filles ne voyaient jamais le danger venir. Elles étaient tellement stupides. Elles étaient tellement stupides.